Il reste deux questions que j'aurais bien aimé de voir avec vous, c'est comment accompagner une personne dans le deuil et aussi quelles questions éthiques en fin de vie. Alors, ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que la mort de quelqu'un, eh ben pour Dieu, il est dit qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. En psaume 116, 15, Dieu est sensible à la mort de ses fidèles. Ça, c'est important de le savoir. Et on voit que Jésus, de son vivant, pleura lors du décès de son ami Lazare. On voit toute la sensibilité donc de Dieu pour ceux qui perdent un être cher. Et on voit que Jésus lui-même, quand il perd son ami, on voit qu'il est touché, qu'il est bouleversé de voir cette foule qui est attristée devant la perte de Lazare. Il y a un verset qui est important, je trouve, qu'il faudrait qu'on se rappelle souvent. C'est en Jacques, chapitre 1, verset 27. Donc, la religion pure et sans tache devant le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Dieu accorde de l'importance à ce que, en tant qu'Église, on puisse apporter un soutien aux veuves et aux orphelins et dans leurs afflictions qu'ils vivent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Parce que quand on voit ici ce que Jacques dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, il dit ça, puis il dit aussi de s'abstenir des souillures du monde. Donc, cette attention pour ceux et celles qui sont dans la souffrance, pour Dieu, ça a beaucoup d'importance. Il est dit en Romains chapitre 12, verset 15, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, de partager les sentiments de souffrance avec quelqu'un, c'est important aussi aux yeux de Dieu. Et en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Donc, quand un membre est en train de souffrir parce qu'il soit il vit, comme on l'a vu tout à l'heure, une maladie grave, ou alors quelqu'un qui vient de perdre un être cher, eh bien, tous les membres souffrent avec lui. Donc, le processus de deuil, c'est un processus qui est complexe et qui n'est pas linéaire. Il y a un peu comme un va-et-vient, comme ça, entre certaines phases. Et je crois que c'est un peu, ce serait un peu une caricature de dire que voilà, le deuil, c'est comme ça, c'est phase par phase et que ça prend autant de mois. C'est variable d'une personne à l'autre. C'est un chemin et ce n'est pas un processus linéaire. Alors ici, je voudrais partager quelques réflexions sur les quatre phases qu'on a vues. Donc la première phase, c'est la phase de choc, ce qui peut être aussi un relatif déni quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, quand on vous annonce la perte de quelqu'un. La première réaction, c'est de dire « ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai ». Ce sont les premières paroles qui viennent souvent à la bouche. On reste incrédule et on a un peu une sensation aussi d'être un peu anesthésié au niveau des émotions et d'avoir une sensation d'engourdissement. Et une chose qui est étonnante, le jour où on vous a appris cette mauvaise nouvelle, les détails de l'annonce restent gravés à jamais dans votre mémoire. De se ressouvenir le lieu précis et le moment précis quand on vous a annoncé cette mauvaise nouvelle. La deuxième phase, la phase de recherche ou de protestation, c'est donc quelques jours après les funérailles. C'est une période où on est confronté à l'absence de la personne aimée. La perte n'est plus une réalité abstraite, irréelle, elle devient palpable. On commence à mesurer le vide qu'elle a laissé. C'est sa voix, son regard, son sourire, ses mimiques, son odeur, sa personnalité nous manquent. On ressent la souffrance de ne plus partager ces moments tendres et complices. La souffrance peut s'exprimer par les habits de la colère, de la culpabilité, du sentiment d'abandon, ou de la tristesse, voire de la détresse. Il y a un besoin de garder le lien. On sait que l'être cher n'est plus là, mais pas encore, c'est pas encore complètement intégré au plus profond de soi. Les détails du quotidien évoquent sans cesse l'être aimé, les photos, des effets personnels. On ressent le besoin fort de rester proche. On a un sentiment aussi de présence intérieure de l'autre qui est parti. On peut se surprendre à espérer aussi un possible retour. Impression d'entendre sa voix, de reconnaître son visage dans la foule. L'être aimé prend toute la place dans notre esprit, jour et nuit. On peut ressentir le besoin de regarder les photos, d'écouter sa voix. On peut aussi avoir la tentation de fuir en avant, c'est-à-dire de fuir en avant, c'est-à-dire de gérer sa tristesse et son chagrin en étant pris par toute une série d'activités. Besoin de se changer les idées, d'avoir plein d'activités prévues par peur d'être pris par la douleur, les émotions. Cette manière d'agir peut faire du bien au moment même, ça peut différer la douleur et la douleur peut réapparaître plus tard. Alors la troisième phase, c'est la phase de désespoir, de désorganisation. Une chose que je voudrais dire aussi, c'est que je sais que dans l'assemblée ici, il y en a qui ont perdu un être cher, qui ont passé donc par une phase de deuil. Et je crois que la phase de deuil, elle est unique à chaque personne. Ici, ce que je dis ici, c'est ce qui peut arriver, mais ce n'est pas et peut-être exactement ça que vous avez vécu, mais c'est possible. La phase de désespoir, de désorganisation, c'est une phase temporaire. Le temps passe, on intègre au plus profond de soi la perte irréversible de l'être cher. C'est le désespoir qui peut s'installer et cela peut durer quelques mois après le décès. Cela paraît plus difficile que les étapes précédentes. La douleur est amplifiée par l'impression qu'on a l'impression qu'on régresse. On pensait que le plus dur était fait et l'entourage aussi pensait que le plus dur était fait. Et on peut se soutenir à ce moment-là moins soutenu. On peut être très bien soutenu au début, puis alors après, c'est pas nécessairement le cas et on peut avoir donc cette phase un peu de désespoir, de profond chagrin. Donc on peut s'entendre des paroles, par exemple l'entourage qui est un peu embêté et qui ne sait pas très bien quoi dire. On peut entendre des paroles, je sais bien que ça n'a pas été pour vous le cas, mais ça pourrait peut-être arriver, qu'on s'entend de dire, il faudrait peut-être penser maintenant, tourner la page, penser à autre chose, de se distraire. À ce moment-là, l'autre nous manque encore plus, nous manque le plus. C'est un sentiment de solitude sur le chemin de deuil. On est au niveau des émotions peut-être sensible, irritable, sentiment mêlé de colère, d'abandon, d'anxiété. Ça peut être aussi un sentiment de désespoir ou de culpabilité, en plus avec une intensité plus forte qu'avant. Au niveau intellectuel, dans cette phase-là, il peut y avoir un état dépressif. Ça se marque par un ralentissement de la pensée. On repense toujours aux mêmes choses, on ressasse toujours les mêmes choses. Il y a une perte aussi d'intérêt pour le monde environnant. On se désinvestit un peu des relations. Les choses extérieures nous paraissent un peu vaines. On a tendance à s'isoler, un manque d'énergie et aussi de concentration. Parfois aussi, on constate une tendance à idéaliser la personne perdue. Ça, c'est quelque chose qui se voit régulièrement. Et si l'idéalisation se prolonge, il peut y avoir une difficulté de se réinvestir dans de nouvelles relations. Si vous êtes tellement en train d'idéaliser la personne, ce sera difficile de réinvestir de nouvelles relations. Donc à la déchirure de la perte succède un mouvement de cicatrisation. Cette phase de désespoir, désorganisation, est nécessaire à la phase de reconstruction. Je dirais que c'est presque inévitable de passer par cette phase de désorganisation, de désespoir, pour aller dans une phase de reconstruction. Cette phase correspond à un travail psychique intense. C'est une phase de transition qui peut durer plusieurs mois et peut-être pour certains même plusieurs années. Alors la quatrième phase, qui est la phase de reconstruction, d'acceptation, il y a un désir de reprendre sa place. On commence à apprivoiser son absence. De nouvelles habitudes peuvent s'installer. Les valeurs peuvent aussi changer. Les priorités, il y a d'autres priorités qui s'installent. L'importance qu'on accordait avant à certaines choses peut changer, notamment au niveau du métier, au niveau de l'argent. Le fait de passer par un deuil intense, on peut voir les choses différemment. Les choses n'ont plus la même valeur qu'avant. Il peut y avoir un besoin de paix intérieure, de spiritualité, de solidarité, qui peuvent prendre leur lait. Et là, ça s'amorce une transformation plus profonde. On se sent prêt à s'investir dans de nouveaux projets de vie. La déchirure de la perte, toujours inscrite, mais elle n'est plus béante, elle commence à cicatriser. Donc le souvenir est toujours là, mais plus tranquille, on est plus tranquille, plus apaisé. La vie a de nouveau du goût, et là, donc il peut avoir de nouveaux objectifs. Voilà quelques pensées par rapport à ces quatre phases. Oui, donc là, Dieu console. Ça, c'est, j'aime bien dans la parole, il y a des versets qui nous disent ceci, que le Dieu de consolation, de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. En 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. J'aime bien cette idée que nous avons un Dieu de consolation. Il est, comme je l'ai dit, sensible à nos souffrances. Il désire réellement nous consoler dans ce que nous vivons. Et de nouveau, consoler, il le fait par son esprit qui travaille en nous. Et aussi, il peut le faire par des personnes que nous apprécions et aussi des frères et des sœurs. Donc, Dieu travaille aussi à travers les autres. Donc, consoler avec compassion, en respectant les sentiments de l'autre et en évitant des encouragements inappropriés, ça c'est important. On connaît tous bien cette histoire de Job qui est confronté à une perte, une succession de pertes immense, où il perd tous ses biens, ses enfants. Et on voit qu'il est confronté vraiment à la souffrance et au deuil. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit d'abord, dans un premier temps, ses amis, ses trois amis qui viennent et qui font, je dirais, le don de leur présence. Ils sont, se sont déplacés de loin pour venir voir leur ami qui était en souffrance. Et pendant une semaine, ils vont pas parler. Ils vont rien dire. Et ça, je trouve que c'est bien. On n'est pas dans une société du tout de silence. Il faut que nous, on, quand il y a plus malaise, il faut qu'on dise quelque chose. On ne sait plus vraiment respecter le silence, alors que le silence a vraiment son importance. Et je trouve que c'est beau de voir ça dans l'Antiquité. Ce temps, ils avaient tout un rituel par rapport au deuil qu'on a peut-être, qu'on néglige, je trouve, de nos jours maintenant. Je trouve qu'on ne permet plus aux personnes de faire un deuil, de prendre le temps de faire leur deuil. Il faut que les choses aillent vite. Et si ça traîne, c'est pas normal, quoi. C'est qu'il y a un problème et qu'il faut essayer de le résoudre. Alors qu'en fait, ça prend du temps, le deuil. Ça prend des mois, ça prend des années. Et donc, il y a ce temps de silence qui est vraiment appréciable. Alors après, on voit qu'il dérive. Ses amis essayent de conseiller Job. Et en fait, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup de compassion pour lui. Et ils ne comprennent pas, en fait. Et ils essayent de trouver une explication à sa souffrance. Et des explications théologiques. Alors ça, je dirais que pour nous, en tant que chrétiens, il faut vraiment éviter des paroles qui risqueraient de ne pas du tout d'être aidantes, comme « Dieu sait mieux que nous, elle est mieux là où elle est », ou bien « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est vrai, et c'est peut-être pas le moment de le dire à ce moment-là. Donc, c'est peut-être pas ça qu'il est prêt à entendre. Donc, il faut être prudent que nous, on a une certaine connaissance peut-être de la parole, on pourrait se dire « ah oui, tiens, on va essayer de trouver quelque chose », mais c'est peut-être pas ça qui est approprié, c'est juste d'être là. Être là avec lui, l'accompagner dans ce qu'il souffre, dans ce qu'il ressent dans sa souffrance. Comme j'ai dit au début, d'être là dans le silence et voilà, de se poser. Alors que c'était l'homme le plus juste, Job. Il n'avait pas quelque chose sur la conscience pour se reprocher. Et ils sont partis sur une mauvaise direction et ils ont pas du tout été aidants. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont pas été aidants, c'est qu'ils ont suscité une réaction chez Job qui finalement a fait émerger encore, je dirais le meilleur, mais bon, si on peut dire ça, le meilleur. Donc, c'est vraiment important de consoler avec compassion, respectant les sentiments de l'autre, et aussi d'avoir des marques d'attention. Ça, c'est important d'avoir des marques d'attention. On a eu aussi dans l'assemblée, mais c'est par exemple des gestes d'attention de faire un repas ou de rendre visite, enfin, de faire des petites choses qui marquent votre affection pour votre frère ou pour votre sœur qui se retrouve peut-être seule. Et qui a besoin d'être soutenu. Eh ben, un geste simple, ça peut faire, c'est aussi parlant qu'un grand discours. Donc, les marques d'attention, d'affection. Alors, je dirais aussi, ce qu'il faut, c'est prier et encore prier. Parce que ça, je crois que on a besoin de la puissance de Dieu et de sa consolation. Et c'est à travers la prière que nous pouvons bénéficier de ces bénédictions que Dieu nous donne. Il y a des versets réconfortants, je trouve, dans la parole qui parlent de la consolation. En psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Donc là, on peut avoir la certitude que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui cherchent, qui sont pas bien, qui souffrent. Ben Dieu, il est là. Peut-être qu'on ne le sent pas, on ne le voit pas, mais il est là. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. En psaume 31, 10, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usé par le chagrin. » Donc on voit là comment David implore, ici c'est peut-être dans un autre contexte, mais quand il implore, parce qu'il est dans la détresse et il a besoin de l'aide de Dieu. Psaume 147, 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Moi, en tant qu'infirmier, j'aime bien ça, le fait que Dieu panse nos blessures. C'est le meilleur médecin, mais c'est aussi le meilleur infirmier, c'est qu'il pense les blessures de ceux qui souffrent. Alors, je voudrais mettre une prière pour conclure ce sujet sur le deuil.
Père, si nous venons à perdre un être cher, nous t'en supplions, soutiens-nous dans notre deuil. Rappelle-nous par tous les moyens possibles que tu nous comprends dans notre souffrance. Rappelle-nous que rien peut nous séparer de ton amour infaillible. Rappelle-nous aussi que par ton esprit, tu es là, tu nous abandonneras jamais et tu prendras toujours soin de nous. Malgré notre détresse, nous t'aimons avec notre faible cœur et nous te remercions de l'œuvre d'amour que tu accomplis dans notre vie, même au travers de notre souffrance. Merci, Père.